Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 20 juin 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Burkina Faso, 17 personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque djihadiste dans le nord du pays.
Au Mali, l'attaque lundi contre deux villages d'Ogon du centre a été commise par des éléments Peuls et a fait 41 morts selon un bilan de l'ONU obtenu par l'AFP.
En République démocratique du Congo, l'armée a délogé hier plus de 10 000 mineurs illégaux accusés d'avoir envahi des concessions minières de l'entreprise chinoise TFM.
En Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz ne veut toujours pas de son ex-premier ministre Domingos Chimoes Pereira comme chef du gouvernement.
Au Soudan, le Conseil militaire appelle la contestation à négocier sans condition.
Le président chinois Xi Jinping effectue une visite d'État en Corée du Nord, alors que les discussions entre Washington et Pyongyang sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne piétinent.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, 17 personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi au cours d'une attaque djihadiste à Béléhédé, dans le nord du pays, a annoncé mercredi le ministre de la Défense, Chérif Sy. De Ouagadougou, correspondance d'Issanapon.
L'attaque terroriste menée par un groupe d'individus non identifiés a été perpétrée contre la population de Béléhédé, un village du département de Tongomaël dans le Soum. Une vaste opération de ratissage a été immédiatement déclenchée dans la zone par les forces de défense et de sécurité. Dans un communiqué rendu public dans la foulée, le ministre en charge de la défense a appelé la population à rester vigilante et à dénoncer tout comportement suspect. La province du Soum, à l'image de plusieurs provinces dans le nord et le Sahel, a connu plusieurs attaques meurtrières, dont la dernière datait d'une semaine, avec le massacre de 19 personnes à Arabinda. La récente attaque survient au moment où l'opération militaire des forces de défense et de sécurité burkinabé, baptisée Ndofu, est en cours dans la région, à l'image de Tapuanou qui a pris fin dans l'Est, afin de traquer et neutraliser dans cette région les forces terroristes dont l'action a causé au Burkina Faso plus de 300 morts, fait des milliers de déplacés et des centaines d'écoles fermées. Issanapon Ouagadougou, VOA Afrique.
Selon un bilan de l'ONU obtenu mercredi par l'AFP, l'attaque de lundi contre les villages d'Ogon, de Gangafani et de Yoro, dans le centre du Mali, a été commise par des éléments Peuls et a fait 41 morts, alors que le gouvernement malien avait fait état d'un bilan de 38 morts et de nombreux blessés. Pour sa part, l'armée malienne renforce sa présence dans les environs. Les violences qui déchirent cette région depuis 4 ans ont culminé avec le massacre le 23 mars dernier, attribué à des chasseurs d'Ogon, de quelques 160 Peuls dans le village d'Ogossagou, près de la frontière avec le Burkina Faso.
En République démocratique du Congo, l'armée a délogé hier plus de 10 000 mineurs illégaux, accusés d'avoir envahi des concessions minières de l'entreprise chinoise TFM, la plus importante société minière privée dans le sud-est du pays, a appris l'AFP de sources militaires. TFM dénonce régulièrement l'envahissement de ses concessions d'une superficie totale de 1 437 km² située dans la province de Lualaba par plus de 10 000 mineurs artisanaux qui y exploitent illégalement des minerais de cuivre et de cobalt, occasionnant un manque à gagner important.
Au Congo-Brazzaville, les autorités ont rapatrié hier 138 étudiants congolais inscrits à l'université à Cuba. Une partie de ces étudiants avait manifesté à La Havane pour obtenir le paiement de leur bourse. Le point avec Morgane Guériec.
Ces étudiants, dont certains avec leurs bébés, sont arrivés hier à Brazzaville. Ils ont été escortés dans l'avion par 5 policiers et 3 agents de sécurité, tous congolais. Le mois dernier, le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, avait estimé que les étudiants protestataires avaient franchi la ligne rouge pour avoir violemment réclamé, fin mars, le paiement de leur arriéré de bourse devant l'ambassade du Congo à La Havane. La police cubaine avait dû intervenir. Les autres étudiants sont rapatriés pour avoir connu une succession d'échecs en médecine et dans l'apprentissage de l'espagnol, la langue officielle de Cuba, avait affirmé de son côté Bruno Jean-Richard Itoua, ministre congolais de l'enseignement supérieur. Jusqu'en mars, les étudiants congolais à Cuba accumulaient 27 mois d'arriérés de bourse, selon M. Itoua, qui a affirmé que 12 mois leur ont été versés après les manifestations.
En Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz a encore refusé de nommer à la tête du gouvernement le chef de la majorité parlementaire. Il entretient des relations difficiles avec son ex-premier ministre Domingos Simões Pereira. Le point avec Abdourahmane Dia.
Tout en reconnaissant que c'est votre parti qui détient la majorité au Parlement, je vous prie de bien vouloir proposer un autre nom pour occuper ce poste, a déclaré le chef de l'État bissau-guinéen. Pendant plusieurs semaines, pour justifier son refus, il avait avancé que le bureau de l'Assemblée nationale n'était pas constitué avant d'inviter lundi le PAIGC à lui proposer un nom. Le parti a désigné Domingos Simões Pereira, une proposition que le président a encore refusée. La crise entre les deux hommes, pourtant issus du même parti, a éclaté en août 2015 avec le limogeage de M. Pereira, qui était alors Premier ministre. Le président Vaz, qui a été exclu du PAIGC, a annoncé que l'élection présidentielle sera organisée le 24 novembre. L'annonce de cette date n'a pas débloqué le contentieux, alors que le PAIGC et ses alliés contrôlent une majorité de 54 sièges sur 102 à l'Assemblée nationale.
Au Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil militaire de transition au pouvoir depuis la chute de l'ex-président Omar el-Béchir le 11 avril, a demandé à la coalition d'opposition de revenir à la table de négociation sans poser de conditions. Des conditions qui ont, dans leur quasi-totalité, été rejetées par les militaires. Alors que les négociations sont au point mort, la résistance civile tente de se réorganiser. De Khartoum, notre correspondante Patricia Hur.
Il est 19h30, les premiers chants retentissent. À Omdurman, dans la banlieue de Khartoum, une quinzaine de personnes se mettent en marche à la lumière des téléphones portables. L'association des professionnels soudanais a appelé à reprendre les manifestations de nuit dans les ruelles. Le mot d'ordre semble se répandre à travers la capitale, de bouche à oreille et par SMS, par l'intermédiaire des comités de quartier qui ont été créés pour assister le mouvement de protestation. Continuerons à faire vivre la révolution, ou nous mourrons, ou nous gagnerons nos droits, clament les manifestants au son des tambours. Des hommes, des femmes et des enfants rejoignent la procession qui passe devant chez eux. Le cortège grossit jusqu'à compter environ 300 personnes. Moins d'une heure plus tard, les gens se dispersent et rentrent chez eux. Tous disent qu'il ne s'agit que d'un échauffement pour avertir le pouvoir que leur détermination n'a pas été brisée malgré la répression. Face à un adversaire lourdement armé, le mouvement de contestation soudanais continue de prôner la résistance pacifique. Patricia Huon, Khartoum pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président chinois Xi Jinping est arrivé aujourd'hui à Pyongyang pour une visite d'État et des entretiens avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Il s'agit de la première visite d'État d'un président chinois en Corée du Nord depuis 2005, au moment où le rapprochement entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump piétine malgré deux sommets entre les deux hommes.
Les gardiens de la révolution iranienne ont annoncé avoir abattu aujourd'hui ce qu'ils ont appelé un drone espion américain qui avait violé l'espace aérien de la République islamique, selon la télévision d'État iranienne. L'incident survient dans un contexte de tensions exacerbées entre l'Iran et les États-Unis. L'armée américaine a intensifié mercredi ses accusations contre l'Iran qu'elle tient responsable de récentes attaques contre des tankers dans le golfe d'Oman, ce que nie Téhéran.
Le Sénat américain va voter ce jeudi pour décider s'il bloque ou non les ventes d'armes autorisées par l'administration Trump, mais contestées par de nombreux élus à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis notamment. Il est clair au Congrès américain que l'indignation contre l'Arabie saoudite gronde toujours après le meurtre l'an dernier en Turquie du journaliste saoudien Jamal Khashoggi par des agents venus de Riyad. À noter à ce sujet que le numéro 2 de la diplomatie saoudienne a affirmé hier que le rapport de l'experte de l'ONU réclamant une enquête sur la responsabilité du prince héritier Mohammed Ben Salman dans ce meurtre était sans fondement. La rapporteure spéciale des Nations Unies, Agnès Callamard, qui a enquêté pendant 6 mois, tient l'Arabie saoudite pour responsable de l'exécution extrajudiciaire du journaliste et critique du pouvoir saoudien.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
L'Américain Anadarko va investir 25 milliards de dollars dans l'exploitation de gisements offshore de gaz dans le nord du Mozambique. Avec des réserves estimées à 5 000 milliards de mètres cubes, le projet de gaz Dolphin Tuna fera du pays un important exportateur de gaz naturel liquéfié avec une capacité de production annuelle censée atteindre 12 millions de tonnes à partir de 2024. Dolphin Tuna permettra de doubler le PIB du Mozambique et de créer plus de 50 000 emplois. La République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement se sont engagés à créer des zones agricoles spéciales impliquant des investisseurs privés pour développer des milieux ruraux. Ces zones seront dotées d'infrastructures énergétiques, de transport et de communication pouvant favoriser la transformation locale des produits agricoles. Le but est de diversifier l'économie congolaise et de favoriser l'agro-industrie pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour terminer, la future monnaie unique des 15 États de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont le lancement est programmé pour 2020, devrait s'appeler l'ECO. Elle remplacera le franc CFA et 7 autres devises nationales qui ne sont pas convertibles entre elles, ce qui ne facilite pas les échanges. La gestion de la monnaie de la CEDEAO devrait être confiée à une banque centrale fédérale et son taux de change devrait être flexible. Le Nigeria exige des pays de la zone franc une déconnexion du trésor français, le franc CFA étant arrimé à l'euro.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Il y aura 2 pauses durant les matchs de la CAN.
Oui, les matchs de la CAN qui se déroulent en Égypte du 21 juin au 19 juillet seront entrecoupés de 2 pauses en raison des fortes chaleurs d'après la commission médicale de la compétition. La plus importante compétition sportive d'Afrique se déroule pour la première fois en été. Les températures devraient tourner autour des 40 degrés les prochains jours en Égypte. Cette pause aura lieu à chacune des 2 mi-temps, à la 30e et à la 75e minute et permettra aux joueurs des 2 équipes et aux arbitres de boire et de s'hydrater le corps avec des serviettes mouillées. Un équipement spécial pour tout cas d'urgence sera disponible selon la commission.
Hier, l'ambiance était, dit-on, toujours timide au Caire, où le coup d'envoi du tournoi sera donné.
Le constat a été fait par Seydina Abagé, notre correspondant à Dakar, présentement au pays des pharaons. Voici son compte-rendu.
La capitale égyptienne commence peu à peu à se mettre aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations avec les décorations autour des stades devant abriter la compétition, mais également les drapeaux des pays participants qui ornent les grandes avenues du Caire. Côté ambiance, rien de particulier à part les sonorités traditionnelles du pays qui ont rythmé l'accueil des lions. Dans la rue, à part quelques affiches, aucune autre chose ne laisse penser qu'une Coupe d'Afrique a lieu dans le pays. Pas de gadgets ou autres produits à l'effigie des équipes, pas de fan zone visible. Seule la présence massive des forces de l'ordre montre qu'il y a une grande compétition qui va se dérouler en terre égyptienne. Le Caire est donc très calme, tout comme son annexe dénommé New Cairo, où sont logés les Lions du Sénégal. Ces derniers vont d'ailleurs s'entraîner pour la 2e fois dans leur camp de base au Air Defense Stadium, un entraînement qui sera ouvert à la presse durant 15 minutes comme le veut le règlement de la CAF. Passé ce délai, il ne sera plus possible d'observer Mbaye Niang et Lamine Gassama, 2 joueurs qui vont certainement cristalliser l'attention des journalistes. Si Mbaye Niang devrait tenir sa place lors de la première journée de la CAN après avoir reçu un coup lors du match amical contre le Nigeria, Lamine Gassama est lui touché aux adducteurs depuis 3 jours, ce qui fait craindre son éventuel forfait pour la CAN 2019.
Seydina Abagi.
Luis Enrique n'est plus le sélectionneur de l'Espagne.
Luis Enrique, affecté par un problème familial, a choisi de quitter ses fonctions et sera remplacé en vue de l'Euro 2020 par son adjoint Roberto Moreno. Luis Enrique, 49 ans, nommé à l'été 2018 pour rebâtir la Roja, était en retrait de son poste depuis mars pour des raisons familiales de force majeure, selon la Fédération espagnole de football qui a demandé aux médias de respecter l'intimité du technicien. Roberto Moreno, 41 ans, dont c'est le premier poste comme entraîneur principal dans l'élite, a été désigné comme le 5e sélectionneur en 2 ans pour la Roja. Ces 3 derniers mois, il a assuré l'intérim sur le banc de l'équipe nationale lors de 3 rencontres successives de qualification pour l'Euro 2020 pour 3 victoires à Malte 2-0, aux îles Féroé 4-1 et contre la Suède 3-0.
Mats Hummels quitte le Bayern.
L'ex-international allemand quitte le Bayern Munich pour revenir à Dortmund. Le champion du monde 2014 de 30 ans a signé un contrat jusqu'en 2022 d'un montant de 38 millions d'euros bonus compris selon le magazine Kicker. Formé au Bayern Munich, Mats Hummels avait joué à Dortmund entre 2009 et 2016, atteignant notamment la finale de la Ligue des Champions en 2013, perdue contre le Bayern. Il est la quatrième recrue de poids de Dortmund pour la saison prochaine après Julian Brandt de Leverkusen, Nico Schulz de Hoffenheim et l'attaquant belge Thorgan Hazard de Mönchengladbach, frère d'Eden Hazard.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Mauritanie, la campagne pour l'élection présidentielle du samedi 22 juin bat son plein. C'est la dernière ligne droite. Le président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, ne se représente pas, mais il bat campagne pour le chef de l'armée et promet de jouer un rôle politique dans ou en dehors de la présidence. Au micro d'Idriss Fall, Ahmed Diop, rédacteur en chef du journal Al Ahbar.
Les candidats ont pris l'assaut de façon Nouakchott et les autres villes du pays, à l'intérieur bien sûr du pays. Ils ont fait que d'ailleurs la dernière ligne droite, ce sera vendredi ou jeudi soir.
Phénomène paradoxal, Mohamed Ould Abdelaziz qui n'est pas candidat, lui il bat campagne aussi.
Oui, Mohamed Ould Abdelaziz, il est vraiment présent dans cette campagne dès le début. Il avait déjà annoncé son soutien du candidat du pouvoir, en l'occurrence l'ex-patron de l'armée, Mohamed Ould Ghazouani. Et lors de l'ouverture de campagne, il avait assisté à son meeting et avait vraiment appelé à ce qu'on vote pour lui. Hier encore, il a réitéré cela en demandant de le soutenir. Mais ce qu'il a ajouté un peu qui fait le débat dans la presse, c'est que il dit qu'il va continuer ses projets économiques et politiques dans la présidence et en dehors de la présidence. Ça veut dire qu'il avait déjà dit que lui, même s'il va quitter le pouvoir, il va rester dans le pouvoir en même temps.
Mais ce n'est pas un scénario à la russe.
Beaucoup craignaient cela, mais après, il y avait un peu des rumeurs de bruit entre les deux candidats. Mais à la fin, on a su qu'un petit peu, il y avait vraiment un rapprochement et que la campagne électorale l'a démontré. Et l'opposition, bien sûr, continue à dénoncer cela. Certains même disent que le candidat Mohamed Ould Ghazouani, c'est simplement Ould Abdelaziz en cagoule.
Qu'en est-il des autres, notamment Ould Mouloud, le candidat soutenu par Tawassoul, Biramda Abeid?
Il n'y a pas de sondage officiel, mais il y a par-ci, par-cela, quelques médias qui font des sondages. Mais la plupart des sondages, on voit qu'il y a trois candidats vraiment qui sortent du lot. C'est Mohamed Ould Ghazouani, l'ex-patron donc de l'armée. C'est l'ancien premier ministre Sid Mohamed Ould Boubacar, mais également Biramda Abeid. Donc ce sont vraiment ces gens-là. Ceux qui spéculent sur un probable deuxième tour disent que si ça allait avoir lieu, ce serait entre Ghazouani et l'un de ces deux derniers cités, c'est-à-dire Sid Mohamed Ould Boubacar ou bien Biramda Abeid. Ould Mouloud, c'est un opposant historique. Il s'est opposé surtout au régime d'Ould Abdelaziz depuis très longtemps. Son problème, c'est qu'il est rentré dans la course un peu tard. Et qu'après l'échec de l'opposition dans sa recherche d'une candidature unique. Donc c'est un tout petit peu une candidature qui n'a pas été très préparée d'avance.
Ahmed Diop, rédacteur en chef du journal Al Ahbar.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
La campagne électorale pour le scrutin du 30 juin se poursuit au Togo. Les élections locales, après plus de trois décennies d'interruption, rencontrent un fort engagement de la part de la jeunesse togolaise. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Le Togo se prépare aux premières élections locales de son histoire depuis 1987. En 32 ans, la gouvernance locale a été reléguée au second rang, affectant le développement effectif à la base. C'est le constat fait par la jeune candidate Liz Diagne, qui affirme avoir des recettes pour sa commune.
Quand je vois, par exemple, dans ma commune, qu'il n'y a pas de structure de santé de ce nom qui puisse accueillir des accidentés rapidement, quand je vois par exemple que des personnes meurent des fois juste par faute des premiers soins, quand on voit dans sa localité des populations qui, à la moindre pluie, ont les pieds dans l'eau parce que peut-être les bassins de rétention, les caniveaux ne sont pas entretenus. Quand on voit plein de défis dans sa localité et qu'on en a des solutions dans sa tête, mais parce qu'on n'a pas le pouvoir public pour le faire, quand vient cette opportunité, on la saisit.
Pour Ama Sovi Adjanke, candidat dans la commune d'Amoutievé, ces locaux sont une opportunité pour les communautés à la base de prendre leurs responsabilités.
Ces élections locales sont pour nous une occasion de faire bouger les choses. Mais devons-nous attendre l'alternance pour voir nos communautés évoluer? Je ne pense pas. C'est pour cela que nous avons décidé de participer à ces élections en vue de faire bouger les lignes.
Ils sont nombreux, ces jeunes Togolais dont l'âge est compris entre 25 et 40 ans, à s'être engagés pour ces élections. De jeunes candidats qui n'ont jamais vécu l'expérience d'une élection locale, mais qui se projettent. Le manque d'alternance au sein des formations politiques explique entre autres cet engouement de la jeunesse, analyse Urobosi Chakondo du Centre d'observation et de promotion de l'état de droit, COPED.
Au niveau de la classe politique togolaise, de l'opposition comme de la majorité, il n'y a pas eu l'alternance qui favorise l'implication des jeunes dans la vie des partis politiques, donc dans la gestion de la cité. Donc ces jeunes voudraient quand même, à un moment donné, essayer de jouer un rôle important et puis faire en sorte qu'ils soient une jeunesse responsable de leur devenir.
Évidemment, c'est cette quête de rajeunir la classe politique togolaise qui sous-tend l'engagement du mouvement Bâtir, dont Delali Ahianou est candidate dans la commune d'Agouet 3.
Ma candidature pour cette élection locale ne serait que preuve de ma bonne foi pour le développement de ma commune. Nous avons une vision et notre vision, c'est de travailler en union et surtout avec les jeunes.
Le scrutin est prévu pour le 30 juin prochain. Kailasan, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Marcelo a 27 ans. Cet immigrant originaire de la République démocratique du Congo fait partie de ceux qui ont choisi de passer par l'Amérique centrale et le Mexique pour atteindre les États-Unis. Arzuma Compaoré l'a rencontré dans le cadre de notre série intitulée « Témoignages d'immigrants ».
Oui, mon nom c'est Marcelo Kalouba. Je suis avec ma femme et mon enfant de 9 mois. Moi, je viens de Kinshasa. On avait fui à partir de l'Angola. On a passé de Vindouké, de Namibie, on a passé par ici. Je me suis retrouvé à partir de l'Équateur par avion. Et puis l'Équateur, j'ai fait la route avec les gens qu'on était nombreux d'autres nationalités. On a traversé la forêt et de l'Équateur, on a passé de Colombie, Panama, jusqu'on a trouvé d'autres chemins pour arriver ici. On passait les morts. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. S'il y a quelqu'un qui meurt, on allait faire quoi? On crée seulement les trous, on les met et puis les gens continuent la route. Il y a des amis qui ont laissé leurs femmes là-bas. Il y a aussi des bandits au cours de la route. Si tu ne donnes pas l'argent, tu risques de perdre sa vie. Le long de la rivière, de la forêt équatoriale et forêt d'Ariane, là-bas, ça se trouvait une rivière là-bas. Au-dessus des rivières, ça a des pierres. On traversait pour aller de l'autre côté. Ma femme était tombée dans l'eau. Elle était avec mon enfant au dos. Elle a glissé. Il est tombé avec l'enfant. J'avais cru qu'il allait mourir ou l'enfant pouvait mourir. Ça s'est passé presque 2 semaines. Mon enfant tombe malade, les fièvres, il y a diarrhée. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de l'aide. Quand on est arrivé là-bas au Panama, la vie s'améliorait un peu parce qu'il y avait l'aide des médicaments, l'aide de tout consort là.
Vous arrivez au Mexique, comment ça se passe?
Il y a beaucoup de familles ici qui étaient avant nous. Je me suis retrouvé là-bas à Acuna. Il y avait des gens qui traversaient la rivière. Moi aussi, je n'avais pas le choix parce qu'au Mexique, il n'y a pas d'aide médicale. On me parlait souvent que si tu traverses là-bas, à l'États-Unis, on aura de l'aide médicale. Et pour cela, je n'avais pas traîné beaucoup de temps parce que j'ai risqué de perdre ma fille. Et pour cela, on a traversé dans cette rivière là-bas à Acuna.
Après avoir traversé, vous êtes arrivé du côté des États-Unis. Qu'est-ce que l'immigration américaine vous a dit?
Elle nous a accueillis, elle nous a donné à boire de l'eau, elle ne nous a pas menacés. Ils ont enregistré les gens, ils ont donné les papiers pour arriver jusqu'ici à Saint-Antonio. Mais moi, je n'ai pas la famille ici, je ne connais pas l'anglais. Et pour cela, on avait choisi les mêmes. On est coincé ici parce qu'on manque l'argent du transport pour arriver là-bas aux mêmes.
Mais est-ce que vous avez reçu de l'aide de la ville de San Antonio?
Actuellement, on dort dans l'église là. C'est seulement l'aide de San Antonio. On mange là-bas.
Vous êtes prêt à recommencer la même chose?
Je ne peux pas recommencer parce que c'est difficile. On a passé des moments très difficiles là-bas.
Vos jeunes frères qui sont toujours à Kinshasa, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
Ce que je peux leur parler, je ne suis pas mort, je suis en vie, moi et toute la famille. Qu'ils gardent confiance en Dieu. Merci pour les prières qu'ils m'ont rendues. Pour cela, je suis en vie. Je suis dans l'île très bon. Je sais que Dieu va faire pour avoir aussi les papiers ici à l'États-Unis.
Quel est votre plus grand rêve là aujourd'hui maintenant?
Et prendre les papiers, vivre et rire comme tout le monde qui vit ici. Mon rêve le plus important, c'est ça.
Marcelo, un immigrant originaire de la RDC qui a atteint les États-Unis via l'Amérique centrale et le Mexique.
Abdourahman Dia avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, zoom sur la situation des réfugiés dans le monde à l'occasion de la journée internationale qui leur est consacrée le 20 juin de chaque année. Plus de 25 millions de personnes sont forcées de quitter leur pays pour s'installer dans un autre. Les guerres, les violences et la persécution sont les principales causes de ces déplacements de population constitués pour une bonne partie de jeunes et de femmes. Leurs conditions de vie dans les camps, leur insertion dans leur pays d'accueil, leur prise en charge sont autant de questions que nous aborderons avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez également réagir sur la page Facebook de VOA Afrique.
Près de 71 millions de personnes sont déplacées par la guerre, la persécution et les conflits dans le monde, selon un rapport publié par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Un chiffre record depuis la création de cette agence onusienne il y a près de 70 ans. Reportage de Zlatika Hawk, repris ici par Lionel Kahima.
Rien que dans le nord-est de la RDC, 300 000 personnes ont fui les violences ethniques depuis début juin, rapporte le responsable onusien. Selon la même source, les affrontements entre éleveurs et agriculteurs ont fait plus de 160 morts dans la région ces deux dernières semaines. Babar Baloch est porte-parole du HCR.
Alors que ces déplacements se poursuivent à grande échelle, la crainte est que de plus en plus de gens tenteront de traverser le lac Albert pour chercher refuge en Ouganda.
Les déplacés et les réfugiés espèrent, dans leur majorité, pouvoir retourner chez eux dès que les conditions le permettront. Même ceux qui, à l'instar du Palestinien Mohamed Diab, ont passé presque toute leur vie dans un camp.
Pas question de renoncer à notre patrie, c'est impossible. Les générations futures n'y renonceront jamais. Si nous mourions, il en aura d'autres, n'est-ce pas?
La réalité est que très peu de candidats au retour parviennent à réaliser leurs rêves. De nouveaux conflits, persécutions, crimes et abus de droits humains déclenchent de nouvelles vagues de déplacés et réfugiés. Leur nombre à l'échelle mondiale équivaut aujourd'hui à la population d'un pays comme la France. Ils sont, pour la plupart, originaires de l'Afghanistan, de la Syrie, du Soudan du Sud, de la Birmanie et de la Somalie, souligne Ninette Kelly, directrice du bureau du HCR à New York.
Et lorsque vous voyez ces pays, vous pouvez constater que l'Afghanistan et la Somalie connaissent des déplacements récurrents de population depuis plus de 40 ans.
Un scénario similaire est en train de se développer dans des pays comme l'Éthiopie et le Cameroun qui connaissent des conflits, affirme Mme Kelly. En Amérique latine, la Colombie abrite maintenant 1,3 million de Vénézuéliens et le Pérou quelques 800 000. Selon Lynette Kelly, les gens fuient leurs villes et villages lorsqu'ils craignent pour leur vie. C'est ce qui explique l'afflux massif des migrants d'Amérique centrale à la frontière sud-est des États-Unis, explique la responsable onusienne. Comme solution, le rapport des Nations Unies exhorte la communauté internationale à investir dans l'économie et la sécurité des pays d'origine des migrants et des réfugiés.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook, tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Nachwan Kale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoutia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.